Moi, je vois, en 10-15 ans, Paris, il y avait des clubs où je pouvais aller. C'est très crade. Maintenant, c'est devenu complètement propre. La balance des huiles essentielles de Calypus, c'est pas ça. Nous, on rentrait avant dans des clubs, il y avait les hormones, l'odeur. Ça ne sentait pas mauvais, mais tu sentais qu'il y avait une hormone, voilà. Et ça, ça fait partie du jeu. Et ils ont essayé de tout limer, et voilà, c'est la, comme la food internationale, on mange tous pareil, on habite tous pareil, on est tous en Zara, et eh bien, Dieu nous préserve, il reste toujours ces espaces, ces autoroutes pourries, avec ces petits coins de pinède, où on peut faire ce qu'on a envie. Il y aura toujours des terrains vagues, ça a toujours existé. Les mairies pourront toujours les préempter, il y aura toujours un autre lieu de refuge, et on se retrouvera toujours à un endroit. Quand les hormones parlent, tu trouveras toujours l'endroit. Nous, déjà, il n'y a pas de droit d'entrée, donc on paye pas. Tu viens avec le physique que tu as, et puis c'est open bar, quoi. Tu choisis ce que tu veux, quand tu veux, tu repars quand tu as envie, voilà. Et tu es complètement libre. C'est les marges.
Un témoignage extrait d'une émission de France Culture, Creation on Air, Les Chemins Égarés, une production d'Irène Omelianenko, avec Pali Meursault qui prend les sons, et puis à la base de l'enquête, Amélie Landry. Amélie Landry qui propose un livre, et vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'on a quelqu'un pour venir en parler sur cette antenne de ce livre. C'est Emmanuel Roquette qui rit déjà dans la barbe qu'il n'a plus, puis qui se réjouit de vous présenter ce livre qui est un produit hybride, Emmanuel, hein, à la fois un livre de photos, un livre d'enquête, un objet littéraire et scientifique. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est en partie ça qui vous a vraiment intéressé.
Oui, déjà le sujet de départ est assez intéressant, c'est sûr, mais c'est surtout ce qu'en a fait Amélie Landry en lien avec d'autres collaborations aussi, avec d'autres collaborateurs dans ce livre. Et donc le titre du livre, comme le titre du reportage, enfin du documentaire, pardon, ce sont les chemins égarés, avec ceci dit un sous-titre qui est important et qui est géographie sociale des lieux de sexualité entre hommes. Et donc c'est un ouvrage de photographies, avec des photographies de Amélie Landry, mais également avec du texte, un petit texte à la fin de Mathieu Riboulet et un autre petit texte de Laurent Guessade, qui est un anthropologue, Mathieu Riboulet étant ce que l'on convient d'appeler un écrivain, un littérateur, on va dire. Alors, c'est vraiment un ouvrage hybride, ça reste un livre de photos. Je pense qu'il faut vraiment le décrire un petit peu plus dans le menu que d'habitude pour un autre livre, pour commencer à le cerner. En fait, déjà sur la couverture, on a un titre très simple, en bas, en blanc. C'est un livre de photographie qui n'est pas très grand, qui n'est pas énorme. Je n'ai pas mesuré, mais c'est un peu plus petit que les grandes monographies que l'on peut voir. Et sur la couverture, on voit, on est en pleine nuit, mais avec une lumière rasante qui est provoquée manifestement par des phares de voiture. C'est directement ce à quoi on pense. Sur le dos de la couverture, la photographie continue et on voit une barrière, qui est une clôture, pardon, qui est plutôt éclairée. On voit également un banc qui est en béton architectonique. Et donc, on est sur une aire d'autoroute. Et on voit plus ou moins au milieu, légèrement flouté, un homme en t-shirt blanc qui s'éloigne vers la partie de la photo qui est restée dans la nuit, dans le sombre. Donc déjà quelque chose, d'un peu hybride, une sorte d'hybride entre la nature et ce que l'homme a investi par l'autoroute, par la voiture, en pleine nuit. Donc quelque chose d'un peu inquiétant, d'un peu mystérieux. Avec le titre en plus, on est directement dans le sujet. La première partie du livre est organisée avec uniquement des photos qui se suivent et qui vont montrer ces fameux lieux de sexualité entre hommes en pleine journée. Ce sont des lieux ouverts qui sont en général avec des plans assez larges. À certains moments, on peut même se demander si on est dans des lieux qui peuvent être investis comme ça. Parfois, on voit un homme un peu nu dans un lointain, comme ça, mais...
Pas tout de suite, hein.
Non, pas tout de suite. C'est assez progressif, comme
au
ça.
Au début, on se demande même, si on prend le livre sans regarder la couverture, on pourrait même se demander, mais allez, c'est quoi ces photos? Pas qu'elles soient pas belles, mais ce qui est photographié est d'un commun. Ce sont des paysages, mais...
Effectivement, les photographies sont extrêmement bien prises. C'est de la vraie photo d'art. Mais on peut se demander quel est le sujet quelque part. Ça pourrait pas être des lieux de vacances, un petit peu. Il y a des dunes comme ça, donc quelque chose d'un peu éthéré. Et petit à petit, on va rentrer dans le sujet. À partir, donc il y a un premier jet de photos, donc des photos de jour, dans des lieux ouverts, avec des plans larges. Et puis on va arriver avec du texte, avec une série de très courts témoignages, extrêmement brefs, où sont simplement précisés le nom de la personne qui parle, dont le témoignage a été récupéré. Avec le lieu d'origine de cette personne. Donc c'est toujours très très court, très factuel aussi, et on le verra extrêmement divers.
Alors là, on est vraiment dans l'enquête anthropologique, enfin, comme on pourrait imaginer retranscrire des témoignages en les ramassant, en les débarrassant des scories du langage, vraiment le factuel.
On est, mais dans la, je pense même à la base même du travail anthropologique, c'est-à-dire on amasse les notes. Point barre, il n'y a pas d'analyse, on est vraiment dans le témoignage brut, et d'autant plus brut, je dirais, qu'il est extrêmement court et qu'il se succède l'un à l'autre. Donc c'était vraiment un... Et qu'ils sont presque mis sans lien l'un à l'autre, qu'ils sont presque là même pour créer une forme de diversité de notes et de témoignages. Après cette partie-là, on recommence avec simplement une narration par l'image, où là, on aura des lieux également ouverts, mais plus rétrécis. C'est-à-dire, on est toujours dehors, mais avec des lieux qui se rétrécissent, des plans qui se rétrécissent, avec une présence humaine également qui est un peu plus, qui est un peu plus forte. Au départ, dans la première partie, on avait des hommes qui étaient vus de plus loin. Ici, ils sont vus de plus près.
Et alors là, la nudité se dévoile, si je puis m'exprimer ainsi.
On commence effectivement... Enfin, on avait déjà l'un ou l'autre personnage nu dans la première partie, mais ici, on le voit, quoi. On ne peut plus nier que les gens sont nus. Par contre, ce qu'on est aussi, on est dans une période de la journée qui est différente. On commence cette partie-là entre chien et loup, on va dire. Donc, le soir arrive, le soir tombe. Et on va terminer cette partie-là avec, eh bien... On commence la nuit, la véritable nuit. Une fois que cette partie-là est terminée en photo, on reprend la partie témoignage, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des témoignages courts, extrêmement brefs, extrêmement factuels, on va arriver avec du témoignage beaucoup plus long, 3-4 pages, qui laisse la possibilité aux personnes qui témoignent de développer, je ne vais pas dire une argumentation ou une conceptualisation de ce qu'ils font, mais quelque chose de plus profond, de plus argumenté peut-être. Et puis alors ensuite... On reprend la photo et là, on est dans le sujet cache, lieu beaucoup moins ouvert. On est parfois dans des lieux fermés, dans des backrooms, comme ils disent. On est avec des corps qui sont vus de face, extrêmement prégnants, avec des plans qui sont beaucoup plus rétrécis et vraiment en pleine nuit. On est vraiment arrivé, on a envie de dire, dans le désir, dans le sujet propre du livre auquel on voulait arriver. Et puis ensuite, le livre se termine avec un témoignage littéraire de Mathieu Riboulet, qui est gay et qui témoigne de ce que lui peut avoir retenu comme expérience de ces lieux-là. Et un autre petit texte, qui est un texte, lui, vraiment à visée anthropologique, de Laurent Guessat, qui est un anthropologue. Et puis ça se termine par quelques photos très grandes, qui prennent là toute la page, avec un aspect plus flouté, avec des lieux ouverts, mais en pleine nuit, où là, on devine l'acte.
Alors comment ça se passe? On va écouter un deuxième petit témoignage extrait des Chemins égarés, le documentaire donc d'Amélie Landry et Pali Meursault.
Donc il y a tout ce circuit que les gars font, et de préférence la nuit, bien sûr, quand il fait sombre. Et le petit jeu, c'est à s'éclairer pour voir à quoi ressemble le gars. Après, s'il te plaît, tu le suis, on trouve un petit fourré et l'affaire est dans le sac, voilà. Et on sort de sa bagnole que pour faire son affaire et après c'est ciao, bonsoir. C'est tout à fait anonyme.
Voilà ce qui se cache dans ces forêts, de ces chemins égarés. C'est assez. personnellement, voilà, je ne connaissais pas ces lieux jusqu'à ce que j'ai vu le film d'Alain Guiraudy, l'inconnu du lac. Et chez Guiraudy, c'est de la fiction. Et tout à coup, là, on se rend compte, à travers l'enquête d'Amélie Landry, que ces lieux existent, mais qu'ils sont extrêmement nombreux, hein, parce qu'à la page 170 de son livre, on trouve une carte de France avec des croix, un nombre incalculable de croix, je ne pourrais pas les compter, de ces lieux qu'elle a identifiés entre 2011 et 2012, au cours de son enquête, des lieux donc, de pratiques homosexuelles libres, dans la nature, comme ça, des lieux d'une sexualité débridée. Il y a des témoignages absolument exceptionnels où les gens disent un peu à la manière de ce qu'on vient d'entendre, on ne se parle même pas. On sait pourquoi on est là. Après, quand on lit les témoignages plus longs, on sent que il y a d'autres choses qui transparaissent. Et c'est bien ça, c'est qu'entre les photos, une certaine crudité, une certaine violence, et puis les témoignages, l'humain revient à la surface et on a des histoires de vie. Certaines sont pathétiques, d'autres plus raisonnées, dirons-nous.
Oui, c'est l'humain dans toute sa diversité, en fait, qu'elle nous montre là. Ce qui est intéressant aussi, vous parliez de la carte, ce qui est marrant, c'est que là, les points qui sont dessinés là ne sont pas fonction de la carte de la France. Elle m'a raconté, c'est pas précisé dans le livre, mais elle m'a raconté qu'en fait, ce sont les lieu de rencontre de sexualité entre hommes qui dessine une carte de la France. Donc c'est un hasard, elle a repéré les... Et donc ça revient au premier extrait que vous aviez passé, c'est les marges en fait. Les marges de la France sont dessinées par des points qui représentent la géographie des lieux de sexualité entre hommes.
Sauf qu'en fait, ça bouge tout le temps, puisque, oui. On le laisse entendre dans le livre, ces lieux ouvrent, mais ces lieux ferment aussi vite. Bah oui, ils sont dans la nature, quand on s'en aperçoit, quand les autorités s'aperçoivent de ce qu'on en fait, ces lieux, ils essayent de...
Oui, il y a toujours cette volonté de rejeter dans les marges ce qu'on ne veut pas accepter soi-même. On a beau dire que l'homosexualité est bien entendu mieux accueilli qu'il y a bien longtemps, c'est certainement le cas, en tout cas légalement. Maintenant, il y a toujours un côté non officiel. Ceci dit, et c'est ça qui est, je pense, extrêmement intéressant dans ce livre, vous disiez vous-même que vous ne connaissiez pas ces lieux. Moi non plus, je ne connais pas ces lieux. Nous ne sommes pas gays, donc nous ne connaissons pas ces lieux. Et je pense que même pas mal de gays ne les connaissent pas eux-mêmes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir ce qu'on investit dans un lieu qu'on ne connaît pas, a fortiori quand il est quand il mêle le mystère à la sexualité. Il y a une forme de... Il y a un peu toute une recette qui est là. Il y a un soupçon de déviance sexuelle, un soupçon de nuit, un soupçon de marge légale, un soupçon de risque aussi. Et on a investi ça par toute une série d'images et finalement toute une série d'a priori que l'on vient plaquer sur ces lieux-là et que l'on vient imaginer et investir de notre propre imagination. Et ce qui est fascinant, et c'est pour ça que ce travail est extrêmement important, non seulement pour l'histoire de la sexualité aussi, mais même pour... Comme base anthropologique pour l'anthropologie elle-même, c'est qu'elle vient absolument démonter tous ces fils-là. C'est-à-dire que comme on a des a priori, eh bien, on va se dire, on va plaquer les a priori que l'on a sur ces lieux sur d'autres a priori que l'on peut avoir par ailleurs. C'est-à-dire, on va se dire, c'est un lieu de la liberté, hein, totale, liberté sexuelle, et c'est bien, c'est chouette, il faut absolument le laisser. Ou alors, si on est plutôt d'un autre bord, on va se dire, c'est la misère sexuelle, c'est horrible, il faut l'interdire absolument.
C'est un lieu de peur aussi.
C'est un lieu de peur et uniquement...
Il y a vraiment de quoi avoir peur parce que franchement, pour ceux qui ont vu l'inconnu du lac de Guiraudy, c'est ça, vraiment ça. Et je leur recommande d'ailleurs d'écouter le documentaire Les chemins égarés qui est disponible en podcast sur France Culture. Parce que si vous écoutez ça la nuit au casque, je peux vous assurer qu'à certains moments... ça vous grimpe le long de l'échine.
Hein. Oui, il y a un côté de crainte, il y a un côté de violence qui est énorme, mais aussi il y a un côté de tendresse, il y a tout ça. Et donc, on a beau essayer de plaquer des a priori que l'on peut avoir sur ce qu'on ne connaît pas, eh bien, elle démontre que, eh bien, on peut tout simplement défaire le dualisme que l'on bâtit sur le monde quand on ne le connaît pas. Et pour ça, rien que pour ça, c'est une lecture, je pense, absolument indispensable.
Il y a même un peu de poésie. Je vais vous en faire écouter.
Moi, j'ai un souvenir de m'être retrouvé dans une forêt avec un garçon. On était en train de faire l'amour et tout d'un coup, il y a une biche qui est arrivée très près de nous. Et je pense que la biche était très surprise parce que c'était dans les Yvelines aussi. Donc, c'est quand même, il y a une forte population, il y a des routes. Et donc, la biche, elle doit être habituée à voir des gens, mais des gens qui marchent. Et là, elle voyait deux hommes qui ne faisaient plus qu'un. Et elle était très étonnée, elle était là à nous regarder et ça donnait une force. Et ça donc, ça ne peut pas exister dans un bar, vous n'avez pas une biche qui arrive, ou dans votre chambre, si vous faites l'amour avec quelqu'un, que vous avez même ramené dans la rue, vous trouvez quelqu'un dans la rue, vous le ramenez chez vous, il n'y aura pas une biche ou un sanglier qui va arriver au pied du lit. Et c'est... Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est très fort en même temps. Ou voir un vol d'oiseaux, voir... C'est un inconnu avec plein de surprises possibles, quoi.
Oui, c'est un excellent extrait parce que ça montre aussi la force du lieu, en fait. Déjà, bon, c'est magnifique, c'est magnifiquement dit aussi avec derrière ce son, je pense, de voitures qui passent, comme ça, rappeler...
Donc ça, c'est bien le travail de Pally Meursault, derrière les témoignages captés.
C'est magnifique parce qu'elle se rappelle de la nature. Et c'est ça qu'elle arrive à capter aussi, Amélie Landry, dans ce travail. Alors là, c'est plutôt vraiment la part photographique qu'elle arrive à très bien saisir. C'est la question du lieu, c'est la manière dont on habite un lieu qui n'est pas fait pour être habité. Ces lieux, ben, ce sont des lieux qui sont en marge de la société, qui sont des aires d'autoroute, qui sont un champ militaire désaffecté, un bunker, et les alentours de ce bunker qui sont désaffectés, sont des lieux qui ne sont pas ou ne sont plus destinés à être habités, mais qui malgré tout vont être habités par ces personnes. Et donc, c'est la manière extraordinairement belle dont des hommes, des hormones, des désirs vont venir habiter un lieu. Il y a des images qui sont, pour moi, ce sont peut-être les plus belles du livre. Ce sont ces images presque labyrinthiques, c'est-à-dire que l'on voit qu'une trouée a été creusée dans certains fossés, non pas à la machette, non pas à la tronçonneuse, mais tout simplement dû au fait des passages des hommes qui vont en retrouver d'autres menés par leur désir. C'est la manière dont le désir parvient à s'inscrire dans la géographie. Et ça, c'est un rappel absolument magnifique de notre humanité la plus basique. C'est une splendeur.
Oui, d'ailleurs, il est beaucoup question de chasse, hein, et de sentiments comme ça, un peu enfouis que l'homme aurait au plus profond de lui, qu'il aurait oublié. Et d'ailleurs, dans le texte de Mathieu Riboulet, c'est ce qui transparaît très fort. Alors, on aime ou on n'aime pas Mathieu Riboulet, mais je trouve que là, par rapport au sujet, son art poétique le rend vraiment très fort, quoi. Et moi, j'ai été très impressionné parce que tout à coup, il n'est pas facile de mettre des mots sur ces images. Bon, voilà, surtout si on n'a pas ce genre de pratique dans sa vie, quoi. Oui. Et là, lui, il le réussit avec une grande force. Alors, OK, parfois, peut-être, certains trouveront que c'est il la ramène un peu trop, si je peux dire. Néanmoins, je trouve que ramasser comme ça, et surtout ramener à lui un témoignage personnel, à quelque chose qu'il a vraiment vécu. Moi, personnellement, j'ai apprécié et j'ai trouvé ça assez fort.
Oui, Mathieu Riboulet, c'est quelqu'un qui avait écrit un livre absolument somptueux qui s'appelle Les œuvres de Miséricorde, qui était paru chez Verdier, qui avait d'ailleurs eu un prix, je pense.
Le prix décembre.
Je l'avais d'ailleurs reçu, pas à l'occasion du prix, mais à l'occasion de la sortie de son livre. C'est une personne absolument magnifique, absolument charmante, extrêmement intéressante. On peut effectivement lui reprocher parfois une approche un peu trop investie de son sujet, peut-être un peu où il en rajoute peut-être une couche poétique pour faire simple, hein, pour ne pas parler des heures et des heures de ce que peut être la poésie et de ce qu'on peut faire avec. Cependant, effectivement, moi je trouve qu'ici c'était très réussi, ce qui n'est pas toujours le cas nécessairement quand il investit comme ça un sujet. Mais oui, investir par des mots ou par des images, quelque chose qui est secret, qui est mystérieux, qui n'est pas non plus destiné à être dévoilé à tous les regards et dévoilé à toutes les lectures, c'est quelque chose de pas évident et qu'il arrive très bien à faire. Ceci dit, et je pense que ça c'est très important, la manière dont fonctionne ce livre, et s'il fonctionne bien, c'est parce qu'il fait appel à toutes les techniques possibles et imaginables de narration. Narration par l'image, narration par le texte, narration courte, narration longue, etc. Et c'est aussi un très 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 bon exemple de la manière dont on peut raconter, dont on peut narrer. Ce qui est intéressant, on en parlait juste avant, c'est qu'Amélie Landry, la manière finalement dont le livre fonctionne, raconte quelque part un petit peu la manière dont Amélie Landry a travaillé son sujet. C'est un travail de plus de 5 ans, donc c'est un travail énorme, un investissement en temps absolument colossal. Et on a l'impression, effectivement, qu'elle nous raconte en images et en mots la manière dont elle-même a dû s'investir pour rentrer dans son sujet et dont toute personne doit s'investir pour rentrer dans tout sujet. Et donc, c'est un exemple de narration photographique, un exemple de narration par le livre et un exemple de ce que doit faire un travail d'anthropologie, je pense.
Et d'ailleurs, si on devait ranger ce livre dans une librairie ou dans une bibliothèque, on pourrait le mettre à deux endroits. On pourrait le mettre en photographie, mais on pourrait aussi le mettre en sciences humaines.
Ah, tout à fait. C'est un ouvrage tout à fait hybride. Alors, ça reste un ouvrage qui se vend comme quelque chose de photographie, parce qu'il y a une photographie qui est magnifique, qui est très très belle, avec une très très belle diversité des plans, une grande diversité du grain, une grande diversité des couleurs, des techniques aussi. Mais c'est un ouvrage, oui, qui c'est presque de l'anthropologie par la photo, en fait. C'est assez rare. Quand je dis qu'on revient à la base de l'anthropologie, la base de l'anthropologie, c'est d'abord tout noter. C'est Lévi-Strauss qui disait ça, hein. Il faut tout noter. Le plus important pour un anthropologue, c'est son bloc-notes et son crayon. Il doit tout noter, même tout ce qu'il voit, tout ce qu'il amasse aura peut-être une importance plus tard quand il va développer son sujet. Mais en attendant, la base, c'est tout amasser. Et les photos et les textes en font partie.
Ces photos ne sont jamais crues, jamais voyeuristes. Il y a une juste distance chez Amélie Landry. C'est ça qui est remarquable aussi. On ne va pas en faire un objet de voyeurisme. Vraiment, on entre dans ce livre. D'abord, on entre dans les lieux avant, comme vous l'avez décrit, de voir les personnages. Et même quand certains finissent par apparaître dans la lumière de la nuit, dans la lumière des phares, en gros plan... En tout cas, on n'a pas l'impression qu'on était en train de les violer, nous, du regard.
Non, c'est vraiment, je ne sais pas comment elle a fait, mais ça c'est presque un miracle. On est à la fois dans l'acte, qu'on peut juger cru ou non, peu importe, mais suivant ses propres conceptions. Par contre, ce qu'elle montre, c'est un acte qui n'est pas qui est presque désinvesti de la crudité que soi-même on peut y placer, mais aussi d'une forme d'esthétisation dans laquelle elle ne donne jamais. C'est assez paradoxal. Il y a des photos, par exemple, où l'on voit, hein, je pense à une en particulier, où l'on voit, là on est vraiment entre chien et loup, on va dire, le soir tombe, on voit une vieille maison manifestement en ruine, et on voit un homme en train de retirer son pantalon dans un univers qui est très très vert comme ça, avec du lierre. Il n'y a rien à faire. Je pense, même si on n'a pas les références culturelles, on va penser à un faune, à un personnage de faune. Et c'est vrai que... Mais c'est pas esthétisé. Elle a jamais demandé, écoute, toi, tu vas enlever ton froc, tu vas faire un personnage de faune.
Je pense qu'elle le saisit, c'est un instant.
Elle le saisit, c'est un instant, mais c'est fait avec une intelligence et avec une à la fois une distance et une proximité avec son sujet qui est extrêmement rare. Alors, peut-être qu'il y a eu, j'imagine, plein de photos qui n'ont pas été choisies. Ça correspond à un choix photographique, mais ce choix a été fait en pleine connaissance de cause, à la fois pour ramener à une idée culturelle antique, mais aussi pour développer son sujet, mais sans non plus tomber dans le voyeurisme absolu. C'est très très rare ce genre de démarche, ou du moins c'est très très rare qu'elle soit réussie à ce point.
Elle ne se met pas en scène, mais elle s'explique quand même au niveau de sa démarche dans un court texte. Et on conçoit qu'il y a une certaine prise de risque quand même à faire ce type de travail. Alors, au-delà du fantasme du tueur en série qu'on retrouve dans le film de Guy Roddy, mais pour illustrer un peu cela, je vous propose un dernier extrait du documentaire où je pense que c'est Pally Morceau qui se promène avec son couple de micros et forcément, dans un lieu comme cela, il croise des chasseurs.
Faites quoi avec vos appareils?
On enregistre.
Ah ouais,
ouais.
Mais quoi? Oui, comme je voyais avec ça, et le suivre, je ne viens pas draguer, mais c'est pas possible. Enfin, peut-être que oui, mais...
Moi, non.
Non, là, pas du tout.
Là, je suis en train de bosser.
Et tu te prends pas 5 minutes pour te faire plaisir?
Bah là, on vient de démarrer, je suis encore en train de bosser, quoi.
Tu te mets derrière un arbre, c'est vite fait, hein.
Ouais.
Ça te dit?
A priori, c'est pas prévu.
C'est bien imprévu qu'il n'ait jamais averti, non?
C'est sûr.
Ça te dit pas?
Non, je te remercie.
Pourtant, je souffle bien, hein. Je souffle très bien, même. Hein.
Bon.
Tu peux essayer?
Non, merci.
Alors, écoute, bonne soirée.
Alors. Bonne soirée aussi.
Salut.
Voilà, une petite mise en abîme un peu rigolote aussi, puisque... qui montre que... qu'il y a une chouette relation qui s'installe. Enfin, c'est peut-être pas toujours le cas, mais qui peut s'installer entre les gens. Bon, il est certain que les micros suggèrent qu'il y a quelqu'un qui s'immisce dans un monde. Et donc, c'est ça qui suscite question, parce qu'on nous l'a dit précédemment, parfois... on ne se parle même pas, mais là on se parle.
Oui, c'est très beau en même temps ce qu'il dit sur l'imprévu comme ça. Donc c'est à la fois, oui, il y avait une prise de risque. Bon, déjà, c'est un travail la nuit, etc., dans des lieux qui sont plutôt fouillis par certains. C'est aussi un lieu dans lequel, il faut le rappeler, et dans certains témoignages, ça revient, dans lequel il y a des homosexuels qui se font bastonner. Donc il y a quand même des gens qui vont là pour faire des virées qui sont loin d'être sexuels, mais plutôt simplement violents. Donc il faut rappeler ça aussi. Mais ça rejoint ce que je disais au départ, dans cette espèce de volonté qu'elle avait, qu'elle a eue, je pense, au fur et à mesure, c'était de démonter un peu un dualisme ambiant ou une forme de cliché que l'on pouvait bâtir sur ce qu'on ne connaît pas. Et s'il y a bien des lieux qu'on ne connaît pas, si on n'est pas homosexuel, ce sont ces lieux-là. C'est qu'il y a une immense diversité. Il y a des gens qui vont là pour chasser et qui sont là vraiment dans une démarche de chasse sexuelle. Il y a des gens qui vont là juste pour regarder, hein, juste pour mater, en fait, qui sont là comme au théâtre. Et alors, il y a des témoignages. Il y a des gens qui disent qu'ils sont là comme au théâtre, mais qui se sont rendus compte que s'il n'y a personne qui joue, il n'y a forcément pas de pièce, donc ce n'est pas très intéressant à mater. Et donc, qui se mettent eux-mêmes à jouer dans cette fameuse pièce. Puis, il y a des gens qui vont là juste pour se promener aussi, tout simplement. Il y a des gens qui vont là et qui jettent tout par terre, leur capote, leur kleenex, etc. Il y a des gens qui sont ultra méticuleux. Il y a même des gens qui retournent pour nettoyer. Il y a des gens qui considèrent ces lieux-là comme un lieu de mixité sociale, un des derniers lieux de mixité sociale et culturelle. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas du tout le cas, c'est pas vrai. La seule preuve, c'est que sur les aires d'autoroute en France, on trouve une patientèle, pourrait-on dire dans ce cas-là, qui est plus propre parce qu'il faut payer l'autoroute en France, donc c'est pour ça qu'on y va. Donc c'est un outil à la fois, ça renseigne effectivement sur les lieux de sexualité entre hommes, mais ça renseigne sur notre monde, sur sa diversité, sur la diversité de l'humain, et aussi sur cette espèce de mélange qu'il peut toujours y avoir, qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours entre la tendresse et la sexualité, et entre le désir et la crainte. C'est un exemple, ce livre.
Ça s'appelle « Les chemins égarés, géographie sociale des lieux de sexualité entre hommes ».
C'est au bec en l'air, je pense que j'ai oublié de le signaler.
Mais voilà, c'est fait. Et c'est un très bel objet qui trouvera place dans votre bibliothèque, que vous aimiez la photographie, la littérature ou l'anthropologie. Merci Emmanuel.
Merci Alain.